Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 39e émission, nous avons le plaisir d'accueillir les dessinateurs des dessins de la semaine, rubrique hebdomadaire d'égalité et réconciliation. Alors, Mister Maillot, bonjour à toi.
Bonjour, bonjour à tous. Je vous aime.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Sani, bonjour à toi.
Bonjour.
Et Bluge.
Bonjour à tous.
Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'égalité et réconciliation. Xavier, bonjour à toi.
Salut Vincent, bonjour à tous.
Mister Maillot, alors je précise que toi, tu n'es pas dessinateur, mais tu es un historique d'égalité et réconciliation.
C'est ça.
Alors explique-nous, comment tout a commencé pour les dessins de la semaine ?
Alors, j'ai rencontré Zéon en 2011, le lendemain d'une assemblée générale de R. En 2012, j'ai rencontré Hugo, un autre dessinateur de la planche de la semaine. Et c'est l'année d'après, 2013, en février exactement, qu'on a commencé à faire la rubrique qui s'est donc appelée « Les dessins de la semaine ». Au départ, c'était Hugo qui gérait ça. Il y avait trois dessins de lui. Puis après, d'autres dessinateurs se sont greffés dans cette rubrique-là.
Et depuis février 2013, donc tous les dimanches soirs sur ER, une salle de dessins originaux.
Absolument. Absolument, c'est moi qui les mets en ligne.
Quelle était l'intention de départ ? À quoi répondait ce projet des dessins de la semaine ?
D'illustrer la politique d'une façon subversive, rigolote et assez joyeuse, tout simplement. Ouais. C'est comme ça que... Parce que c'est vrai que c'était très axé politique. Donc, ça nous faisait notre petite rubrique qui égayait le site. Et je dois dire que c'est vraiment une réussite, à mon sens. Hein. On voit que c'est très... Les gens sont en général très contents le dimanche de retrouver notre rubrique, les dessins de la semaine. Ouais.
Alors, pour nos auditeurs, on va essayer d'éclairer vos personnalités à vous trois. Mister Maillot.
Ouais.
Tu n'es pas dessinateur, je l'ai dit au début de l'émission. Tu es au départ connu pour tes imitations.
Absolument. Et puis j'ai eu une panne d'imitation, enfin une panne d'inspiration. Et ce qui fait que pour écrire, j'avais plus l'inspiration pour écrire des sketchs qui faisaient 3 à 4 minutes, vous voyez. Donc j'ai pas voulu disparaître. Et j'ai commencé à regarder les dessins, puisque c'était moi qui mettais la rubrique en ligne. Et puis j'ai eu des idées. Je me suis dit, bah tiens, je vais travailler avec... Les auteurs qui me plaisent bien. Et moi, en fait, je suis pas dessinateur. Je vais prendre une métaphore, une image. Je suis comme quelqu'un qui saurait pas jouer d'un instrument, mais qui aurait le sens du rythme ou l'oreille musicale. Voyez, c'est ça le rapport que j'ai au dessin. Je sais pas dessiner, mais j'ai des idées. Voyez, donc et j'ai des images qui me viennent en tête, des éclairs. Alors, je sais pas si c'est des éclairs de génie, mais en tout cas, c'est ça le truc. Donc, par exemple, je suis sur ER, je regarde une nouvelle, un truc qui où je me dis, mais non, c'est pas possible, tu vois. Et ben, y a une idée qui me vient, et un flash, une inspiration. L'idée, j'essaye de la formuler, de la polir, de la travailler. Et une fois qu'elle est prête, entre guillemets, j'ai plus qu'à choisir le dessinateur à qui je l'envoie. Alors si c'est un truc un petit peu fin, intelligent, nuancé, etc., c'est pour Sani, direct. Et si c'est un truc un petit peu plus drôle, un petit peu plus... loufoque, un petit peu plus barré, parce que j'ai aussi mon univers, c'est plutôt pour Bluge.
Donc si c'est pas drôle, c'est pour Sani, quoi.
Si c'est nuancé, intelligent, etc. Et drôle aussi, et drôle, évidemment. Oh là là. Et si c'est un truc un petit peu, donc comme je disais, drôle, loufoque, barré, etc., c'est plutôt pour Bluge. Si Bluge ne peut pas, ben également Stoll et Rameau, qui font également du très très bon travail. Et je dois dire que jusqu'à présent, je ne me suis pas beaucoup planté dans l'attribution des dessins. Donc, pourvu que ça dure.
Alors, concernant ce point justement qui est la transmission de tes idées à, par exemple, Sani, on a une couverture que les auditeurs vont découvrir bientôt, puisque c'est la couverture de l'Almanach 2015 qui va sortir dans quelques jours.
Oui, sur le numéro
site,
3.
Sur le site de contreculture.com. Alors, cette couverture, on y voit BHL appuyant sur un bouton avec derrière lui une explosion. C'est une très belle couverture, très colorée. Et BHL est entarté. Xavier ?
Un Bernard Olivier entarté, bien sûr.
C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, comment vous avez conçu ce dessin, tous les deux, toi et Sani ?
Bien sûr. Donc, c'est moi qui ai envoyé l'idée à Sani. Donc, je lui ai dit, Bernard-Henri Lévy venait juste de se faire entarter dans l'église de Saint-Loup à Namur.
On s'en souvient.
Par l'équipe de Noël Godin, alias Le Gloupier. Et je ne sais pas, c'est apparu tout d'un coup. Bernard-Henri Lévy entarté, et quelle est la spécificité du gars ? C'est qu'il déclenche des guerres. Donc, quel est le meilleur symbole pour signifier le déclenchement d'une guerre, bah, c'est quand même le bouton rouge, le feu nucléaire. Bam. Et donc, j'ai imaginé Bernard-Henri Lévy appuyant sur le bouton rouge et qui déclenche derrière lui le feu nucléaire. Donc, Bernard-Henri avec des traces de crème fraîche sur la gueule. Hein, et restant tout de même très sérieux, parce qu'on voit que c'est un type qui manque cruellement d'humour hein, quand on commence à le connaître. Quoi. Et donc, c'est parti là-dessus. Et donc Sani m'a montré le brouillon. Dès qu'il m'a montré le brouillon, j'ai dit « Oh là 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 là, chef-d'œuvre en vue ». C'est tellement... En tout cas, on avait vraiment un super résultat. J'étais très content. J'ai vraiment de la chance de continuer à m'exprimer parce que, vous voyez quand même, vous vous rendez compte de la chance que j'ai. Il y a des gens qui trouvent mes idées assez bonnes pour les mettre en dessin. Donc, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que sans moi, ils continuent de dessiner, mais sans eux, je n'existe plus, vous voyez. Et grâce à leur talent, je peux continuer à m'exprimer. Donc, pour ça, je les respecte et je les remercie tous et je leur mets jamais l'impression. Je termine toujours par mon mail quand j'envoie une idée, par une petite formule qui est « Tu adaptes, tu improvises, tu t'amuses ».
Alors Sani, tu adaptes, tu improvises, tu t'amuses. Est-ce que c'est aussi simple concrètement? Par exemple, pour cette couverture de BHL.
Pour la couverture de BHL, le dessin final ne ressemble pas au croquis de départ, à l'idée de départ qu'on a eue. Il y avait l'idée de BHL, du bouton rouge, de l'explosion. Et ensuite, on a discuté avec Mister Maillot. Donc, il y avait d'autres détails que la crème sur le visage. Et on a réduit, on essaye souvent de trouver l'idée qui soit le plus, la plus marquante, la plus simple, la plus efficace. Donc, souvent avec Mister Maillot, on a des détails qu'on vire parce qu'on teste et on se rend compte que c'est pas le plus efficace, tout simplement. Donc là, on avait juste gardé la crème sur le visage et l'explosion en arrière-plan, c'est BHL déclenche des guerres, en retour, il se fait entarter, et puis on ne sait pas qui a commencé, finalement.
Combien de temps pour concevoir ce dessin?
Je dirais en moyenne, c'est une dizaine d'heures de travail. Alors le dessin, en fait, il avait été publié une première fois sur la rubrique des dessins de la semaine. Et on a décidé de le faire passer en couverture. Donc j'ai continué le dessin tout simplement autour de ce qui avait été fait. Donc en tout sur la couverture, il doit peut-être y avoir 15-20 heures de travail. Quoi.
Et alors ce choix de couverture devait être un choix difficile. Comment vous avez opéré Comment vous avez décidé? Comment vous avez discriminé les dessins entre eux?
La décision, c'est pas nous qui l'avons prise. Mais
Mister Maillot m'a dit que Zéon avait bien apprécié le dessin. Et qu'on pourrait peut-être éventuellement faire une couve. J'ai envoyé un test de couverture à Zéon et il m'a dit, il a montré le test de la couve à Soral qui a donné le feu vert et puis on est parti là-dessus.
Alors Sani, toi tu es un dessinateur, on les a vus, tes dessins assez réalistes. Est-ce que tu peux nous décrire, te présenter, nous décrire ton parcours?
Donc moi je suis dessinateur, après le bac j'ai suivi une formation de dessin. Et ensuite, j'ai travaillé de mon côté pour essayer de signer des projets chez des éditeurs. Et j'étais en même temps intéressé par l'actualité. J'avais suivi l'affaire Dieudonné, je n'avais pas compris la polémique, tout simplement, à l'époque. Et en cherchant sur Internet, j'étais tombé aussi sur les vidéos d'Alain Soral, sur le site Égalité et Réconciliation. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la politique, et donc j'ai fait mes premiers dessins politiques sur mon blog en 2012, et puis dans mon coin, tout simplement, tout seul. Et puis après, j'ai eu un contact avec Zéon, et qui m'a proposé d'intégrer les dessins de la semaine. Et je me suis plus spécialisé dans le dessin politique, voilà.
Et Sani, donc tu as un style de dessin très particulier, tu t'intéresses également beaucoup à la politique à travers tes dessins, c'est ce que tu cherches à mettre en valeur. Comment tu décrirais ce style?
C'est un style qui est plutôt réaliste. Faut savoir que quand je fais un dessin, je me documente beaucoup en général à partir de photographies. Donc je ne décalque pas, mais je me sers de beaucoup de photos. Ça peut aller jusqu'à 30-40 photos pour un dessin. Je cherche au niveau des positions, des vêtements. Si jamais je dessine un lieu, je vais me documenter pour que ça soit réaliste, tout simplement.
Est-ce que les gens que tu dessines ne veulent pas venir poser chez toi?
Voilà, si je veux dessiner l'expression faciale d'un homme politique, par exemple, connu, faut que je trouve des photos. Des fois, on n'a pas toujours le bon angle, donc on en prend plusieurs. Je travaille beaucoup à partir de l'observation, tout simplement.
Bluche, toi, tu as un style totalement différent.
Oui, absolument.
Alors Bluges, d'où tu viens ?
Oh, j'ai à peu près le même parcours. En tout cas, je suis arrivé de la même façon que Sani sur la planche de la semaine. En fait, j'avais un blog personnel où je faisais mes propres dessins. Je les diffusais de manière assez confidentielle puisque c'était un petit blog. Et de fil en aiguille, par contact, je suis arrivé sur la planche de la semaine. J'ai rejoint donc l'équipe. J'ai pris le train en cours de route, si je puis dire. Et depuis plusieurs années, on s'amuse bien. L'idée, c'est quand même ça, hein, c'est de donner un petit peu de dérision, un petit peu d'ironie par rapport à l'actualité, d'alléger un petit peu toute l'actu qui n'est pas forcément drôle par définition.
Alors justement, concernant l'actualité, Bluges, j'ai sous les yeux un dessin de l'Almanach 2015, un dessin de toi. On y voit un terroriste musulman, manifestement, qui brandit une pancarte No Borders avec des petits cœurs et facho parce que, et ça c'est la petite note que tu as mise qui nous l'apprend, terrorisme, François Hollande rétablit les contrôles aux frontières. Est-ce que tu peux nous décrire, s'il te plaît, comment tu as dessiné ce dessin, comment l'idée t'est venue et...
Pour ce qui est du visuel, en fait, alors c'est assez facile parce que les terroristes ont un look, pour un dessinateur, c'est juste, c'est du caviar. Ils sont déjà drôles en eux-mêmes, donc on n'a pas besoin tellement de forcer le trait. Après, ce qui est plus difficile, c'est de rechercher l'idée du dessin, de trouver quelque chose qui ait un sens. Là, l'idée de départ, c'était par rapport aux annonces de fermeture aux frontières suite aux attentats du 13 novembre, et une annonce qui était donc complètement bidon, comme tout le monde l'a vérifié, et de faire un lien avec le mouvement No Border, qui par certains côtés donc, demande l'abolition des frontières, demande à accueillir tout et n'importe quoi en France, comme si le risque terroriste n'existait pas. Et donc l'idée, c'était de cumuler un petit peu, de mixer ces deux actualités ensemble et d'essayer d'en faire sortir quelque chose d'un peu plus léger, mais quand même avec du sens.
Xavier ?
Oui, alors avec d'autres, hein, donc avec Zéon, avec Hugo, avec Adolphe, donc Sani et Bluges, vous avez complètement renouvelé le genre du dessin de presse satirique sous un angle dissident. Alors il y a eu d'autres générations avant vous, lesquelles vous ont inspiré quand on vous lit, quand on vous regarde. On pense bien sûr à Reiser, à Villemain, un certain nombre de gens. Est-ce que ça fait partie de votre panthéon personnel ?
Oh bah forcément, on s'inspire toujours de nos aînés. J'aurais pas la prétention de dire qu'on a renouvelé le dessin de presse. On fait du dessin de presse avec notre sensibilité, avec notre recul, notre culture, mais on peut pas opposer chacun à sa forme d'humour. Charlie Hebdo a sa forme d'humour à eux. Nous, effectivement, on a une approche qui est complètement différente, mais l'idée, c'est quand même de faire du dessin de presse. La grosse différence, par contre, c'est qu'il y a des dessinateurs qui, eux, sont institutionnels, sont diffusés à large échelle, et pas nous. D'autant plus que par rapport à certaines thématiques qu'on aborde et la façon d'aborder ces thématiques, on risque beaucoup plus gros en termes de censure et de procédure.
L'exemple typique, c'est les dessins du Canard Enchaîné ou de Charlie Hebdo qui vont être repris par exemple samedi soir sur France 2 à grande échelle. Or vous, votre diffusion vient justement des moyens modernes, des réseaux sociaux, où vos dessins, au-delà du site Égalité et Réconciliation, vont circuler énormément sur Facebook, être commentés, être repris.
Ah bah ça, c'est la révolution Internet, ça, on le dira jamais assez. On a eu quand même la chance, nous, d'une génération, de connaître cette révolution qui permet justement d'éviter la diffusion institutionnelle et de proposer simplement autre chose au public. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas du tout que des gens regardent des dessins sur France 2 ou autre, mais nous, au moins, on peut apporter quelque chose d'autre en plus qui n'existait pas dans les années 80-90.
Ce qui ne fait que de renforcer le fossé entre les médias institutionnels et tout ce qui est en train de se créer.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, par exemple, toi, Bluges, qui t'a vraiment inspiré dans le dessin de presse ?
Oh bah très franchement, moi je suis de l'école Cabu, Charlie Hebdo, première époque, à l'époque où ils faisaient encore des couvertures un petit peu drôles et subversives par rapport à leur époque. Et j'ai lu pendant de nombreuses années Le Canard Enchaîné. La première chose que je regardais, c'était les dessins de Cabu, qui pour moi est un maître de la caricature. Après, sur l'abord politique, c'est complètement différent, mais on peut reconnaître un artiste, son talent, qui est bon, là, en l'occurrence évident, sans être forcément d'accord avec ses idées.
Alors je disais renouveler le genre, parce qu'en fait vous êtes une équipe, il faut le dire, très très jeune.
En moyenne, on est jeune, mais ce qui caractérise le plus notre équipe, je crois justement, c'est la diversité par rapport aux dessinateurs institutionnels. C'est qu'on rentrera dans la planche de la semaine des gens très différents au niveau des âges, au niveau de leur provenance, je dirais, idéologique, politique, de leur parcours. Et ben, toi, par exemple, aujourd'hui, il y a Sani et moi, on a des styles de dessin qui sont radicalement différents. Et pourtant, ça cohabite très bien. Je pense que pour le public, c'est plus intéressant d'avoir une variété de dessins. Justement, quand on parlait de Charlie Hebdo, voir la différence des fois entre le dessin entre Luz et Charb, faut s'accrocher. Nous, on propose au moins une diversité. Et les dessins de Sani sont, entre guillemets, beaucoup plus poétiques, beaucoup plus esthétiques, même si certains, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont drôles. Mais nous, on ne cherche pas forcément le gag à tout prix. On cherche avant tout le dessin et une approche politique dans le dessin de presse.
Et toi, justement, Sani, quels sont les dessinateurs qui t'ont inspiré?
J'aime bien Riser et Vim, hein, mais je ne sais pas s'ils m'ont forcément inspiré. J'apprécie. Après, j'ai un style complètement différent. Je n'ai pas été trop inspiré par le dessin de presse. Je suis... À la base, de toute façon, je ne pensais pas vraiment faire du dessin politique quand j'ai voulu devenir dessinateur. Et, par exemple, j'aime bien Enki Bilal, j'aime bien des peintures aussi.
C'est intéressant que tu cites Riser et Vimin, parce que justement, c'est un style qui est complètement, radicalement différent du tien. D'ailleurs, à propos de Vimin, on recommandera aux auditeurs de lire cette fameuse BD Hitler égale SS, alors qu'elle est difficile à trouver dans le commerce, mais ils pourront toujours la télécharger en PDF sur Internet.
Exactement.
Pour ceux qui ne connaissent pas... Vraiment, c'est une grande tranche de rigolade.
Ouais.
Et donc, oui, voilà, donc ton style est beaucoup plus réaliste, quoi.
Oui, voilà. Et justement, j'apprécie d'autant plus les dessins qui s'éloignent de mon style parce que c'est autre chose, quoi. C'est plus marrant. C'est peut-être même que je vais, par exemple, dans les dessinateurs de la semaine, Adolphe, il a un trait très simple. Moi, j'adore son style, ça fait mouche. Alors qu'on a, voilà, on a des styles totalement opposés, mais j'apprécie ce que moi, justement, je ne fais pas ou que je ne peux pas faire, en tout cas.
Alors, parmi les dessinateurs de la semaine, on sait que Zéon et Azim ont franchi le pas et ont produit une bande dessinée. Est-ce que vous-même, vous deux, vous pensez un jour faire sauter ce pas ?
Moi, j'avais un projet sur la création monétaire que j'avais présenté à Zéon il y a un an ou deux et qui est au stade de projet, quoi. Il y a un découpage des planches qui a été fait. Faute de temps, c'est un projet qui n'avance pas.
Sur la création monétaire, c'est un projet ambitieux. Hein.
C'est un projet ambitieux, mais je pense que j'aurai pas le temps, en tout cas, d'ici les... Je ne me vois pas le réaliser prochainement. Mais sinon, après, il me semble que Azim, c'était un livre avec plusieurs des dessins qui étaient parus sur ER. Donc,
c'était une compilation, en fait.
Une compilation. Mm-hmm. Donc pourquoi pas, hein, sortir une compilation de dessins. Pour un projet, après, c'est vrai qu'une bande dessinée, ça prend énormément de temps à réaliser. Et voilà, c'est juste une question de temps aussi, hein, tout simplement.
Et toi, Bluge ?
Oh ben, faut pas se mentir, en tant que dessinateur, l'idée, l'ambition, c'est d'être édité en format papier. Donc pour l'instant, moi, c'est pas encore tout à fait d'actualité, parce que moi, je suis vraiment dans le dessin de presse. Comme dit Sani, faute de temps, j'ai pas le temps de développer une BD à part entière. Je me concentre essentiellement donc sur l'actualité. Mais le fait d'avoir déjà été édité via l'Almanach, maintenant quand on est à sa troisième édition, c'est déjà quelque chose de très gratifiant, de très motivant, et qui permet justement d'aller au-delà d'Internet. Parce que quand je parlais de révolution Internet, bon, c'est vrai que ça permet de se faire connaître du public, mais ça ne vaut pas la concrétisation papier. Un livre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant, évidemment, qu'une diffusion d'un dessin sur Internet. C'est quelque chose qui reste, qui peut être en plus partagé chez soi, qu'on garde chez soi. Et le fait d'avoir fait cet almanach qui a permis en plus de faire des dédicaces, donc de rencontrer le public, là on n'est plus du tout dans le virtuel. Donc déjà c'est un premier pas qui est très bien et qu'on va continuer.
C'est important pour vous, ce retour à l'objet?
Ah, c'est fondamental. Échapper au virtuel, ne pas être dans le tout Internet, bien sûr.
Et l'idée de produire, par exemple, un journal satirique hebdomadaire ou mensuel pourrait se concrétiser ?
L'idée avait été évoquée. En fait, c'est surtout un problème de manque de moyens et qui demanderait vraiment un plein temps sur plusieurs personnes. Malheureusement, on n'est pas forcément très 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 très, très nombreux. Il faut quand même être équipé, organisé. Donc on avance en fait par étapes. Comme disait Maillot, la planche de la semaine, ça commençait avec une ou deux personnes, ça s'est étoffé. Et je pense qu'il vaut mieux y aller comme ça au fur et à mesure, ne pas griller les étapes. Si un jour on a l'occasion de faire un magazine, on en a déjà parlé, ça se fera et ça, on le fera avec plaisir. Mais pour l'instant, voilà, on avance progressivement.
Mister Maillot ?
Ouais, parce qu'il faut quand même préciser quelque chose qui est important. Là, Bluge et Sani parlent de leur manque de temps. C'est parce que ce ne sont pas des dessinateurs professionnels, ils ont un métier à côté. Donc c'est déjà très bien ce qu'ils font, vous voyez, de trouver le temps en dehors de leur activité professionnelle pour faire ça. et de voir que des dessinateurs non professionnels réalisent des trucs qui sont un milliard de fois mieux que les dessinateurs professionnels de Charlie Hebdo, voilà, ça veut tout dire.
Xavier,
est-ce que pour vous, là, si le projet de magazine ou d'hebdomadaire, ou peu importe le format, se concrétiser, la diffusion en kiosque serait un enjeu essentiel?
Pour l'instant, on n'en est pas là. Franchement, le fait d'avoir fait un almanach qui existe déjà physiquement et qui peut être diffusé, c'est déjà une bonne chose. L'avenir, de toute façon, la diffusion des médias va tellement changer, on peut pas savoir dans 2-3 ans à quoi ça ressemblera. Est-ce qu'il y aura encore des journaux en kiosque? Ça, on peut pas se projeter dedans. Par contre, l'idée de continuer à fonctionner en équipe, comme on le fait, on est quand même pas mal de dessinateurs actuellement, c'est de continuer, bien sûr. Contre vents et marées, je serais tenté de dire.
Alors, on va passer à la question qui tue. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Est-ce que vous revendiqué comme dessinateur, en tout cas appartenant à une certaine dissidence, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent que Charlie Hebdo a pris vraiment les risques, puisque eux l'ont payé de leur vie?
Il y a tout un débat là-dessus. C'est sûr que d'avoir diffusé des caricatures qui fâchent certaines personnes, c'était entre guillemets un risque. Maintenant, on sait que le risque était téléguidé, donc on va pas refaire l'histoire. De toute façon, le fait de dessiner et surtout de faire du dessin d'actu, on sait que ça va choquer, quoi qu'il arrive, une partie du public. Donc, eux, ils ont eu leur parcours qui est le leur. Nous, vous inquiétez pas, on a suffisamment d'ennuis par rapport à notre activité.
On parlera pas de Zéon qui vit actuellement réfugié en Iran.
Non plus, mais on sait que de toute façon, la planche de la semaine est vue par toute une série de personnes qui cherchent la première occasion pour nous enquiquiner. Enfin, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des dessinateurs qui ont eu des soucis. Et on sait que ça continuera, mais que nos ennemis se rassurent, nous aussi on continuera.
Mister Maillot ?
Oui, on continue d'autant plus fort que là maintenant, avec l'almanach numéro 3, on est vraiment rodé. C'est-à-dire qu'au début, on tâtonnait un peu, on mettait 3-4 dessins sur la même page, puis une, puis deux, etc. Bon, c'est normal, c'est le début. Pour le deuxième, on a mis un dessin par page, etc. Et là, on a vraiment trouvé la bonne formule avec le numéro 3. Un dessin par page ou deux, vous voyez ? Quand vous tournerez les pages, il y en aura. Donc, on ne surchargera pas une page avec un nombre de dessins trop grand, vous voyez. Une page, un dessin ou une page de dessin. Pas plus, vous voyez.
Bah, ça illustre ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on avance petit à petit. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs et au fur et à mesure, on met les choses en place. Effectivement, l'almanach numéro 3 a un bon équilibre au niveau des dessins. Il y a beaucoup de dessinateurs, beaucoup de thèmes différents. Je pense que ça plaira au public.
Alors justement, Mister Maillot, sur cette équipe, est-ce que tu peux nous décrire, s'il te plaît, comment vous travaillez ensemble? Vous êtes combien et comment ça se passe entre vous?
Alors nous sommes une quinzaine de dessinateurs. Certains sont plus réguliers que d'autres, mais en tout cas, il y a vraiment une bonne ambiance. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas de concurrence entre nous, au contraire. On se montre nos dessins, voilà. Puis en général, quand Blue, je me montre les siens, je suis mort de rire. Quand Sani me montre... les siens, c'est pareil, c'est beau, c'est drôle, etc. Rameau, n'en parlons pas. Stoll, pareil. C'est vraiment, il y a vraiment une super ambiance. On se fait rire les uns les autres. Quoi. Il y a vraiment.
Et vous nous faites rire.
Merci, c'est gentil. Et non, en tout cas, il y a pas de. C'est que de la joie, que de la bonne humeur, qu'une franche camaraderie.
Alors, Sani, par rapport à la question de tout à l'heure de Xavier, qu'il a posée à Bluge. Concernant les événements de Charlie Hebdo, quand on te dit que Charlie Hebdo, eux, c'était des résistants puisqu'ils sont morts, et toi, t'es là, devant moi, qu'est-ce que tu réponds?
Déjà qu'ils étaient plus exposés médiatiquement que nous, c'était des gens vraiment connus, qui dessinaient depuis des années, c'était des figures vraiment connues du grand public. Ensuite, ils ont pris des risques par rapport à leur dénonciation du terrorisme, de l'islam extrémiste. Faut savoir que, de toute façon, quand... On prend toujours des risques de toute façon quand on fait du dessin ou quand on s'attaque à un pouvoir ou à des personnes. Donc eux, ils se sont fait tuer. Il y a différentes versions. On ne sait pas exactement qui est à l'origine du... Enfin, voilà, il y a des zones de flou, on va dire. Je pense qu'ils ont pris des risques par rapport à...
Est-ce que le risque aujourd'hui pour un dessinateur, c'est vraiment de s'attaquer à l'islam extrémiste?
C'est
vraiment dans le sens... On va vraiment dans
je pense que c'est un risque... Quand même, bien évidemment, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul.
Vous, en tant que dessinateur, quel est le sujet sur lequel, honnêtement, vous auto-censurez?
Il y a beaucoup de sujets où on va pas jusqu'au bout de notre pensée. Bah, tout simplement, c'est on essaye de... Enfin, moi, personnellement, j'essaye de faire des dessins qui permettent aux gens de réfléchir un petit peu, de prendre conscience de certaines choses. Il y a des sujets, de toute façon, sur lesquels on ne peut pas parler. Il y a des sujets où il y a des lois mémorielles qui sont imposées, donc on n'a pas le droit d'avoir des avis personnels sur certains sujets. Il y a des sujets où on a tout un tas de gens qui peuvent vous attaquer en procès, des associations... Donc voilà, il y a le système, il est verrouillé par rapport à pas mal d'idéologies. Et donc voilà, on essaie de les taquiner comme on peut.
De toute façon, il faut bien comprendre que déjà en soi, la liberté d'expression n'existe pas. Il faut arrêter avec ça. Ça n'a jamais existé. Encore plus aujourd'hui, où de toute façon, comme dit Sani, tout est verrouillé. En plus de ça, il y a forcément une autocensure qui existe au niveau des dessinateurs. Pas forcément dans un sens uniquement négatif d'ailleurs. Quand on cherche une idée pertinente, par exemple sur l'actualité, j'ai des dizaines d'idées par semaine. Le principe, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui va faire mouche, quelque chose qui va être intéressant, si possible drôle. Alors là, quand on a les trois ensemble, c'est génial. Ça veut dire qu'on met de côté d'autres idées. Donc c'est pas vraiment une forme d'autocensure dans le sens où on s'empêche de dire quelque chose, c'est qu'on essaie juste d'être le plus efficace possible. Après, par rapport à l'actualité de ce qu'on vit en France, oui, il y a des sujets d'autocensure, des terrains sur lesquels on sait qu'on ne peut pas aller, ou alors on s'expose, et il y a aussi un principe de responsabilité collective. Par exemple, sur la planche de la semaine, on sait qu'il y a des dessins qui ne peuvent pas passer, parce que simplement, sinon, c'est ER qui va se manger des procès, on sait qu'on est très surveillé. Donc si un jour la France est libérée, peut-être qu'on se fera un petit peu plus plaisir, peut-être qu'on ressortira les vieilles archives interdites. Mais pour l'instant, heureusement, il y a tellement d'autres sujets d'actualité, on a suffisamment de quoi faire tout en restant dans les clous.
Et d'une façon paradoxale, on pourrait dire que vous êtes Charlie, puisque vous êtes le Charlie du professeur Choron qui va au fond des choses et qui va contre le gouvernement, contre le pouvoir en place.
Ah bah ce qui est sûr, c'est que nous, on est plus, on revendique la liberté que pouvait avoir Charlie dans les années 70-80, et ce peu de liberté qui a complètement disparu. C'est sûr que nous, on essaie de rebondir là-dessus. Maintenant, on a aussi d'autres influences, et quand tu regardes les différents dessinateurs de l'Almanach, justement, le fait qu'il y a des personnes très très différentes, ça apporte vraiment autre chose. C'est tout bête, mais le fait que déjà physiquement il y ait beaucoup de personnes qui soient en province ou à l'étranger, ils ne baignent pas dans le petit milieu parisien, donc ça apporte une inspiration aussi qui est différente. Et je crois que c'est une grosse différence qu'on a par rapport à des dessinateurs institutionnels qui travaillent justement dans des rédactions, c'est que nous, on cumule comme ça beaucoup de différences, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on s'entend bien, c'est que les rares moments où on peut se retrouver par rapport à une dédicace, en fait on est heureux de se retrouver, on s'amuse et il suffit de nous voir, hein, quand on se retrouve après une dédicace à boire un coup en terrasse, on est tous en train de dessiner, t'as l'impression de voir une bande de mômes de 10 ans et là on se fait plaisir et on est vraiment dans la bonne humeur. Et comme disait Maillot, effectivement du coup il n'y a pas de concurrence, chacun apporte sa petite pierre, et moi quand je regarde les dessins tous les dimanches comme tout le monde sur ER, j'attends toujours les grands classiques, les petits nouveaux aussi, parce qu'il y a des personnes qui arrivent. Ils vont donner par exemple un ou deux dessins par an, des gens très ponctuels, mais le noyau dur avec des Stoll, avec des Adolphe, bon, bah, de toute façon, on attend ça avec impatience comme tout le monde.
Une vraie équipe où tout le monde est titulaire, en quelque sorte.
Oh ben, la titularisation se fait uniquement sur le travail, hein, y a pas de poste attitré, tu fais un dessin qui est bon, tu fais un dessin qui fait rire, ou pas d'ailleurs, parce que justement on n'est pas dans la gaudriole à tout prix. Il y a des dessins qui peuvent être très poétiques, très esthétiques, et qui ont toute leur place dans l'Almanach.
Mister Maillot.
Le travail et le talent. Et Dieu sait s'il y en a dans l'équipe.
Donc ça c'est aussi un appel pour d'éventuels dessinateurs qui souhaiteraient vous
rejoindre. Rejoignez-nous, on est là.
Alors, je voulais aussi souligner quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans vos dessins. On parlait de Charlie Hebdo, donc, qui était devenu depuis 92 et encore plus depuis la première affaire des caricatures dans les années 2000, un organe gouvernemental. Et ce qui est très intéressant dans vos dessins, c'est qu'il y a énormément, ou en tout cas un certain nombre, de reprises de Charlie Hebdo transposées sur une autre religion. Je pense notamment à ce dessin qui a beaucoup fait rire, Manuel Valls, une étoile aînée, où on voyait Manuel Valls... le cul à l'air avec une étoile de David donc sur le cul. en référence à ce dessin de Charlie Hebdo, Mahomet, une étoile est née. Et c'est vrai que vous prouvez en parodiant quelque part la parodie à quel point vous êtes subversif.
Je sais pas si on est subversif. Bon, déjà, le principe de rebondir les uns les autres en tant que dessinateur, c'est quelque chose qui a toujours existé. Maintenant, effectivement, le fait que Charlie et autres, parce qu'on oublie aussi qu'il y a le Canard Enchaîné aussi, qu'il y a beaucoup de dessinateurs, de taquiner tous ces dessinateurs un petit peu institutionnels et qui n'ont que droit de citer par rapport au grand public, bon, bah, là, c'est sûr que là, on ne va pas gêner, on se fait plaisir de temps en temps. Hein.
Oui, et puis c'est Charlie Hebdo, quand il y a des dessins qui sont détournés, c'est pour montrer qu'il y a quand même des thèmes que Charlie Hebdo n'aborde jamais. Même si les thèmes qu'il aborde sont c'est des bons thèmes et qu'on apprécie le travail qu'ils peuvent faire. Pas toujours, mais voilà, on apprécie certains dessins de Charlie Hebdo. Justement, le fait de détourner leurs dessins pour mettre en avant d'autres réalités qui ne sont pas mises en avant par Charlie Hebdo, ça permet de montrer qu'ils sont... voilà, c'était un journal qui défendait... Le pouvoir, tout simplement, qui était subventionné également par ce pouvoir même.
Et d'ailleurs, vous allez, on peut penser notamment à l'actualité de Zéon en ce moment, qui a largement été diffusée sur le site d'Égalité et Réconciliation suite à la remise d'un prix en Iran. Et justement, vous allez être de plus en plus dans l'œil du cyclone.
Oh ben on l'est depuis pas mal de temps, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs dessinateurs, dont moi, on a quand même eu déjà des problèmes. On va pas revenir dessus, mais on sait que de toute façon, on est dans le viseur. Il suffit qu'il y ait une actualité qui se fasse un petit peu plus saillante, on sait qu'en face, ils vont pas hésiter à taper dessus. Donc, on le sait, on l'assume, sinon on ferait autre chose. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on est emmerdé, plus en fait on a envie de continuer. C'est un combat. Il est certain que certaines personnes vont abandonner le combat parce que des fois c'est dur. Et là, je peux vous dire que quand vous prenez la pression, quand vous avez le vent de face, ça souffle. Hein. Faut quand même s'accrocher. Donc il y a des personnes qui à un moment arrêtent complètement ou soient retournées. Bon, c'est plus rare, mais des personnes qui abandonnent le combat, moi je comprends tout à fait parce que c'est pas très agréable d'être sur la sellette. Par contre, le fait d'être ensemble et de savoir pourquoi aussi on fait ça, c'est sûr qu'on va continuer.
D'autant plus que le dessin de presse est quelque chose d'extrêmement efficace. C'est-à-dire que c'est un éditorial, qu'on regarde le dessin, immédiatement l'idée passe, il y a un fluide qui passe directement avec le public. Et justement, c'est ce qui fait la force et l'exposition que vous avez.
D'ailleurs, l'essentiel des ventes de Charlie Hebdo se faisait sur le dessin en une.
Bien sûr, bah c'est ça qui est accrocheur. C'est tout l'intérêt d'ailleurs du dessin de presse. Et t'as dit le mot, c'est en fait, il y a le côté éditorial. C'est que c'est la difficulté, mais en même temps, c'est l'intérêt du dessin de presse. C'est de mélanger donc le dessin pur, l'esthétisme, avec une idée qui rebondit sur l'actualité, qui va souligner quelque chose de particulier. Et alors en plus, si c'est drôle, c'est la cerise sur le gâteau.
Et puis on nous vend l'humour comme étant quelque chose de sacré, contrairement à l'écriture, c'est-à-dire que l'humour est quelque part inattaquable sous prétexte de liberté d'expression, etc. Et donc justement, vous testez vraiment les limites.
Oh bah comme je disais, hein, vu que la liberté d'expression n'existe pas, plus tu fais preuve d'humour et d'impertinence, de toute façon, plus tu vas t'exposer. Ça, on le sait.
Mister Maillot.
Ouais, puis le luxe qu'on a, enfin que les dessinateurs ont, c'est qu'ils ne sont pas obligés de dessiner tous les jours. Contrairement aux dessinateurs de presse, etc., qui sont obligés de gratter et de mettre un dessin, de fournir quotidiennement. Nous, des fois, j'imagine que les dessinateurs, un jour, ils vont être inspirés et le lendemain, ils ne vont pas être inspirés du tout. Donc, c'est un luxe qu'ils ont de pouvoir, de temps en temps, souffler, etc. Et le fait de ne pas être obligé de dessiner, etc., c'est quand même... relativement déstressant, tu vois, il y a moins de pression que pour dessiner quotidiennement, tout simplement. En fait, surtout, il y a moins d'usure, ce qui fait votre force, en tout cas.
Xavier ?
Oui, alors, ce qu'on voit également à la lecture des dessins de la semaine, c'est la grande pluralité des points de vue. On voit très bien qu'il y a des dessinateurs qui ont des sensibilités plus libertaires, voire de gauche, et des dessinateurs qui ont une sensibilité identitaire. Je pense notamment à Adolphe ou Crampon, qu'on voit un peu moins d'ailleurs.
Ah ben, Crampon a eu un parcours un petit peu différent, c'est-à-dire que c'était un des... Personnellement, c'est un de mes dessinateurs préférés dans le style Rezer. Et lui, il est carrément allé au bout de ses convictions, puisqu'il est allé donc porter les armes en Ukraine et en Irak. Donc il a un parcours qui est quand même assez particulier, assez couillu, faut le reconnaître. Donc, pour l'instant, par la force des choses, il a arrêté de dessiner, mais on ne désespère pas qu'il revienne parmi nous.
Et sur la différence de sensibilité politique ?
Oh bah ça se ressent, hein. Justement, ça fait partie de la pluralité qu'on retrouve dans l'almanach.
C'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir.
Bah justement, nous, on applique au pied de la lettre les idées de tolérance et de liberté d'expression. C'est qu'on juge un dessin sur sa pertinence et on ne cherche pas à savoir si un tel et un tel vient de tel bord politique.
Et bien que ce soit en rapport avec l'actualité, vos dessins, en vérité, sont très peu datés.
Alors ça dépend. Dans l'almanach, l'idée, c'est de sélectionner des dessins qui vont durer dans le temps. Donc soit ils sont très marqués dans l'actualité, à ce moment-là, il y a un petit libellé qui va expliquer quelle est la référence, parce que dans un ou deux ans, ça sera oublié. Et d'autres dessins, dans le principe, ne serait-ce qu'avec l'esthétisme, qui, eux, peuvent durer dans le temps. Donc c'est aussi ça l'intérêt de l'almanach, l'édition papier, c'est de faire une sélection sur l'ensemble des centaines de dessins qui ont été diffusés toutes les semaines, de voir ceux qui peuvent rester chez soi dans sa bibliothèque.
Xavier ?
Oui, comme il faut bien bouffer, j'aimerais un peu parler gros sous, parler pognon. Est-ce que vous prévoyez ou est-ce que vous organisez des ventes de vos originaux, de vos dessins originaux ?
Alors moi, personnellement, vu que mes dessins sont numériques, non. Parce que ça serait... Il n'y a pas de dessin original fait main, je travaille sur une tablette graphique.
Mais t'es pas obligé de le dire.
Ouais, mais...
Si, c'est
je suis franc,
c'est de l'honnêteté.
Les
hein.
dessinateurs voilà, de l'almanach sont honnêtes. Non, mais sans rigoler, ça n'empêche pas.
Oui, après, j'ai pas de dessin politique à vendre aux formes. Un original, si tu veux, je pourrais vendre des impressions.
D'ailleurs, c'est intéressant, ça. Pourquoi ce choix fait du numérique?
C'est moderne comme méthode de travail. Moi, je trouve ça plus pratique, personnellement.
Parce que finalement, tu dessines, mais sur une tablette.
Sur un écran. Sur un écran, voilà, avec un stylo, un stylet sur un écran directement. Et c'est pratique puisque ça te permet de modifier ton dessin rapidement.
Sans gommer, sans...
Voilà, c'est ça. Tu peux changer une couleur en un clic...
Mais c'est envisageable malgré tout, puisque les photographes le font bien. On peut penser aussi aux lithographies qui sont numérotées, ainsi de suite. Il y a un modèle économique à trouver ?
Bien sûr, il suffit juste de mettre en place ce qu'on va vendre et voilà.
Et toi, Bluge, crayon ou numérique ?
Les deux, mon capitaine. En fait, ça c'est une question d'habitude. Moi j'ai toujours l'habitude de commencer vraiment au crayon, beaucoup beaucoup de crayonner. Et ensuite à la phase de scanner du dessin, après j'ai ce que j'appelle de la post-prod. Parce que j'aime bien le côté léché, le côté précis, surtout pour les couleurs. Alors ça, c'est vrai que les moyens technologiques actuels permettent d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus propre. Mais là encore, sur tous les dessinateurs que vous retrouvez dans l'almanach, chacun en fait a sa méthode de travail. Donc ça va du tout numérique ou du tout graphique. Je pense notamment à... Loïc Serja qui a fait des albums absolument magnifiques avec Marion Sigaud et pour l'avoir vu travailler, donc lui c'est intégralement à l'encre sur papier et il y a également TL qui lui dessine au départ intégralement sur papier et plume.
Alors TL d'ailleurs que je remercie puisque c'est lui qui a dessiné les couvertures de mes trois ouvrages, enfin deux ouvrages et DVD qui vont sortir bientôt sur Chavez, donc bientôt sur contreculture.com. Mister Maillot ?
Oui, de toute façon, un beau dessin, c'est comme une belle photo. On veut l'avoir chez soi et agrandi.
Alors, vous n'avez pas répondu à la question, pardonnez-moi, de Xavier concernant le modèle économique.
Pour l'instant, la question ne s'est pas posée. Comme je disais tout à l'heure, on progresse pas à pas. On est déjà très content d'avoir réussi à faire un almanach.
Almanach qui, quand même, vous permet de vous rémunérer.
Alors, c'est pas ça qui nous fait vivre tous les mois. En fait, c'est rémunéré au prorata par rapport au dessin, par rapport aux ventes. Donc, les ventes marchent plutôt bien. Mais c'est sûr que malheureusement, on n'arrive pas à en vivre. Donc, si l'almanach 3 se vend bien, nous, ça nous permet d'avoir plus de confort pour travailler, d'avoir plus de moyens. Mais on n'a pas encore pensé à un modèle économique, je dirais, vraiment alternatif. Certains ont essayé, je pense par exemple à d'autres dessinateurs comme Marceau ou d'autres dessinateurs dans d'autres branches qui utilisent la diffusion des dessins par des blogs et qui ensuite vont vendre des originaux. Pourquoi pas ? Pour l'instant, c'est vrai que nous, on n'en a pas encore parlé. On est peut-être un peu trop naïf là-dessus et il y aura peut-être une question à creuser effectivement.
Sani ?
Oui, l'almanach, c'est la principale rémunération pour les dessins qui sont publiés dans la rubrique, puisque c'est sur les ventes de ce livre que la plupart des dessinateurs sont payés. Donc, c'est le premier soutien que peuvent nous apporter les lecteurs de R. Ou les non-lecteurs de R, en tout cas ceux qui veulent nous soutenir.
Mister Maillot a un don, je crois qu'on peut le dire, tu sais faire les imitations. Comme Zéon n'est pas avec nous, on va faire une interview de Zéon. Alors, Zéon ?
Oh, franchement, c'est chaud. Oh, tu vois, je reviens d'Iran, là, je suis obligé de me planquer. Parce qu'ils me poursuivent de partout, là, tu vois. Oh, franchement, je sais pas comment ça va se goupiller, mais... Oh, ça va aller quand même, mais... Oh, c'est chaud. Ah, franchement, c'est chaud. Chaud, adadas, tu vois.
Et le fric des Iraniens, tu l'as caché où ?
Ouais, chez Jeannette Bougrab. Ouais, franchement, elle en veut, elle en a besoin. Tu vois, alors que moi, je suis généreux, tu vois, alors je peux sacrifier.
Tu donnes ?
Ouais, je donne, gratos. Servez-vous, bientôt, il n'y en aura plus.
Ouais, et Zéon, l'almanach 2015, alors ? C'était du boulot ?
Ouais, c'était du boulot, mais j'ai bien fait chier Mister Bayo à envoyer les dessins à 23h30 au lieu de 19h, tu vois. Mais ça va, on commence à s'habituer, on a la bonne formule, tout ça. Non, franchement, ça.
Mais
c'est
le meilleur
des trois.
Il n'y a pas de dessin de toi dans l'almanach cette année ?
Ouais, que ça peut te foutre. Ouais, moi, je travaille, je fais autre chose à côté, tu vois. J'en ai assez donné précédemment. Et puis, là, vu les emmerdes que j'ai, j'ai pas envie d'en rajouter.
Et alors, Bernard Lévy, vous êtes en couverture de cet almanach 2015 ?
C'est du parafascisme ! Un scandale antisémite de plus, émanant de cette équipe non élue par le sang qui coule dans leurs veines. Ma thèse sur cet almanach, c'est que ce sont des petits salopards payés par l'Iran, fourriers du terrorisme islamo-fasciste international et du réchauffement climatique. Gloup, gloup. Oh non ! Non, pas encore !
Et alors, Monsieur Le Pen, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Zéon ?
Mais écoutez, je pense que c'est un point de détail de l'almanach, n'est-ce pas ?
Vous êtes procuré cet almanach, naturellement, Jean-Marie Le Pen ?
Oui, naturellement. J'en ai pris toute une fournée.
Et vous, Elisabeth Lévy, alors, cet almanach ?
Non, attendez, franchement, excusez-moi ! Mais qu'est-ce que c'est que cet almanach nazi ?
Et vous, Alain Finkielkraut ?
J'ai condamné cet almanach ! Je l'ai condamné !
Monsieur Finkielkraut, merci beaucoup. Mister Maillot, Sani, Bluge, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
De rien.
Merci.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que l'almanach 2015 est disponible sur le site contreculture.com au prix de 22€ pour 90 pages de dessins originaux. C'est bien ça, Mister Maillot ?
Tout à fait.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Xavier, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Vincent.
Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de La Mota. Son album Bande Originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Fantasy, opus 46. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.